Chaque jour, d'un bout à l'autre du pays, des milliers de personnes font la différence et maintiennent le filet social en place pour aider les communautés plus vulnérables. Vous êtes sur le point de les découvrir et de plonger dans un monde où des gens qui n'ont rien d'ordinaire accomplissent des choses assurément extraordinaires. Des gens avec un cœur grand comme le monde et qui contribuent à changer le monde. Chers auditeurs, chères auditrices, cette semaine, encore une fois, ce sont deux femmes inspirantes que j'ai envie de vous présenter. Elles nous ont fait le bonheur d'être en studio à nouveau, donc nous rebaptiserons l'épisode « Héroïne anonyme ». Elles sont arrivées en studio vêtues de couleurs inspirantes, de couleurs qui rendent de bonne humeur. Et je vous invite à tendre l'oreille, bien entendu, comme à chaque semaine, mais également à ouvrir le cœur parce que elles ont également en commun d'être des fondatrices. Donc, ce sont des femmes pour qui ce projet mijotait depuis un certain temps dans leur tête, dans leur cœur, et elles ont eu envie là, de donner naissance à ce projet. Elles ont également en commun d'être nées hors Québec. Rosanna Brouzonnet de Montréal, la plus heureuse, était professeure à Milan, en Italie. Et Magali Boutin, fondatrice directrice générale de l'organisme Fréquence, a été adoptée en Haïti et est arrivée au lac Saint-Jean avec sa sœur jumelle dans la famille Boutin. Et ce sont des femmes qui incarnent de façon extraordinaire nos valeurs québécoises, donc des Québécoises plus que québécoises. La première invitée qui se joint à moi en studio est Magali Boutin, fondatrice et directrice générale de l'organisme Fréquence, qui veut faire rayonner les talents des jeunes de 12 à 21 ans issus des communautés noires du Québec. Une courte pause et Magali Boutin sera avec nous. Première invitée aux héros anonymes. J'aurais envie de dire aux héroïnes anonymes parce qu'à nouveau, cette semaine, ce sont deux femmes qui sont à l'antenne, deux femmes qui sont pleinement investies dans l'organisme qu'elles ont créé. Et la première avec laquelle nous allons discuter aujourd'hui est Magali Boutin, fondatrice et directrice générale de l'organisme Fréquence, qui s'inscrit dans une belle histoire de vie. Et elle est devant moi, tout sourire et toute passion. Bonjour Magali.
Bonjour Chantal, enchantée. Merci de nous recevoir.
Je vous dis, elle me dit bonjour, elle se met les mains sur le cœur. C'est vous dire comment cet organisme-là lui porte à cœur et on va voir un peu aussi dans quoi ça s'inscrit, votre récit de vie. Mais d'abord, quelle est la mission de Fréquence?
Alors, la mission de Fréquence, c'est vraiment de mettre en lumière les jeunes, tous les jeunes ou tous les jeunes qui s'identifient en tant que noirs, issus des communautés noires du Québec. Donc, c'est non seulement Montréal, le Grand Montréal et les régions métropolitaines, mais de l'Abitibi au lac Saint-Jean. J'ai moi-même grandi au lac Saint-Jean. Genre, oui. Il y a XXX années, et on n'était pas très nombreuses, ma sœur jumelle et moi. Mm. Alors vraiment, lorsqu'on a fondé Fréquence, j'ai fondé Fréquence, dis-je, c'était vraiment très important de mettre en lumière tous les talents issus des communautés noires de 12 à 21 ans, donc les jeunes de l'âge secondaire qui ont des missions, des projets, jusqu'à l'âge universitaire, 21 ans. À nouveau, notre mission est aussi non seulement de les mettre en lumière, mais de créer des ponts entre les entreprises pour leur offrir des stages, du mentorat ou des bourses.
On a l'impression, ces derniers temps, que ce type d'organisme-là n'est plus nécessaire. Et vous allez sûrement m'expliquer pourquoi ça l'est encore et plus que jamais.
Tout à fait. Si vous regardez justement le tout dernier, les toutes dernières données en lien avec le taux de chômage au pays, au Canada et au Québec, on regarde les tranches tant d'âge que les tranches en termes de diversité ou, mm-hmm. ou communauté. Et même les jeunes, le taux de chômage est à 1% pour les jeunes d'une tranche d'âge spécifique. Et lorsqu'on ajoute la particularité des jeunes issus des communautés noires, ce taux augmente et double presque. Donc, même si
double
on dit...
Presque.
Oui. Alors, je n'ai pas les chiffres devant moi, je pourrais vous les donner. Donc, on a peut-être un taux de chômage de 6,9% pour les jeunes. Ouais. Et pour les jeunes issus des communautés noires, on tombe dans le 12, tout près. Donc, à nouveau, je dois vérifier les données, mais elles sont probantes. Et on a eu le dossier dans la presse tout récent qui a fait constat de cet enjeu auquel les jeunes, même s'il y a les talents, les ressources, les initiatives et l'éducation et le parcours qui est riche, il y a encore ce grand fossé qu'on essaie de rattraper, compenser. Et lorsqu'on on retourne vers les communautés noires, mais les adultes, ce fossé-là est toujours existant également. C'est en termes de masse salariale qu'à nouveau, les professions sont moins accessibles pour les adultes de cette communauté-là. Alors, fréquence, imaginez, on s'est dit, nous, on n'attendra pas, parce qu'il y a énormément de ressources qui existent pour les adultes, mais pour les jeunes, il n'y en avait pas nécessairement. Il y a de la reconnaissance, des bourses, puis on est un écosystème qui sommes là pour soutenir la jeunesse et l'encourager, et plus particulièrement les jeunes issus des communautés noires. Et fréquence a cette unicité, d'une certaine façon, de créer les ponts entre les entreprises. Avec le mentorat, les stages et bien sûr les bourses.
Parce qu'au départ, lorsque j'ai découvert l'organisme, que c'était un organisme jeunesse, je me disais, il me semble, on a parlé beaucoup d'organismes jeunesse récemment et je me demandais, est-ce qu'on a ce besoin de cette spécificité-là? Et les je ne vais pas dire les chiffres spécifiques que vous me donnez, mais plus les écarts tendent à démontrer qu'effectivement... Et vous avez dans votre énoncé une mission de changer le regard porté sur la jeunesse noire. Quel est ce regard-là que vous voulez changer?
Mais tout à fait. À nouveau, les dossiers, toujours dans les médias, le constat, nous sommes à nouveau au Québec, la seule province, puis on va inclure les États-Unis si on tombe dans la thématique du jour.
Oui.
Mais à nouveau, on n'ira pas là, mais c'est un regard qui frappe, incluant les États-Unis. Nous sommes la seule province où le racisme systémique n'est pas accepté, révélé, n'est pas officiellement par les entités gouvernementales admis. C'est quand même fort. Donc, on a tout le reste du Canada qui admet qu'il y a du racisme systémique qui existe dans nos systèmes. On ajoute les États-Unis, mais on doit exclure le Québec. Donc, ça prend des organismes tels que Fréquence pour justement changer ce regard-là, pour enrayer le profilage, enrayer le choix d'engager un jeune de 15-16 ans, parce que c'est maintenant à cet âge que nos jeunes peuvent accéder au marché du travail. Donc, le choix, à nouveau, on veut qu'il soit équitable pour tous et que ces jeunes aient la même chance que tout autre jeune de notre société qui contribue avec leurs talents puis leurs idées et leurs compétences. Cette discrimination-là demeure et on veut que ce regard change.
Oui.
Je n'ai même pas besoin de rentrer dans les exemples. Ils sont présents, ils sont souvent invisibles, perçus ou au contraire très visibles et marquent cette jeunesse à jamais. Et c'est ça qu'on veut changer pour leur donner toutes les chances d'avancer.
Je vais poser une question, Magali, puis elle peut être un peu particulière. Quel lien on fait entre, par exemple, enrayer le profilage et la fierté qu'on veut développer chez les jeunes? Est-ce qu'il n'y a pas certains engrenages ou cercles vicieux dans tout ça?
Non, moi, je ne vois pas de corrélation, mais justement, des jeunes qui sont fiers, sont confiants, lorsqu'ils vont se faire aborder par une force de l'ordre et avec aucune raison, ils vont avoir tous les moyens de répondre et ne pas rentrer dans, justement, des engrenages qui mettent tant les policiers que les jeunes dans des situations conflictuelles où des fois, les deux parties sont marquées. Alors, cette fierté-là, elle est très large. Mais une fierté, c'est avoir tous les moyens, les outils, l'armure même possible pour tout de suite dire, « Monsieur, est-ce que vous avez tous les motifs nécessaires? » Et à nouveau, même la Cour supérieure l'a mentionné. Mm-hmm. Donc, la fierté est le plus beau des boucliers. Et exact. C'est bâtir cette confiance-là. Parce qu'à nouveau, le parcours des jeunes d'aujourd'hui, il y a des jeunes qui sont nés ici, des jeunes de X génération, des jeunes adoptés. Et c'est pas, ils n'ont pas tous nécessairement le même bagage ou la même éducation qui leur fait réagir devant des injustices telles le profilage.
Mais c'est un peu ce que je voulais emmener, que la question de la fierté fait en sorte qu'on on est en mesure de... Un peu justement, s'il n'y avait pas ce double standard-là de simplement dire « il doit y avoir une erreur, pouvez-vous vérifier tel autre » et pas entrer dans un sentiment qui ouvrirait la porte à
de la victimisation, exact. Puis à nouveau à automatiquement accepter des choses qui sont inacceptables en 2025 et même avant.
Oui.
Merci de poser la question, parce que c'est important de l'expliquer et d'aider à l'auditoire et la société de comprendre que c'est une injustice qui dure depuis trop longtemps.
Parce que ça peut être difficile, justement, pour, tu sais, pour une personne blanche qui n'a jamais connu cette situation-là et qui va simplement dire « je pense qu'il y a une erreur » et qui va amener le discours sur les faits, tout simplement. Et c'est ce que ça devrait être. Point.
Exactement. Mais un jeune qui marche dans son quartier et qui s'en va à la maison, il n'y a aucun motif de l'arrêter de lui poser les questions. Ou encore tout récemment, des jeunes qui sortent d'un spectacle de musique et le musicien même se fait demander ses pièces d'identité. Aucune raison.
Je vous écoute, puis je sais que ça arrive, mais c'est dur à croire. Parce que dans quel... Et bon, je sais que vous développez beaucoup la notion de réseautage, de partenariat. Donc, j'imagine qu'en plus de travailler sur la fierté, vous travaillez évidemment, comme on le disait, sur le regard. Donc, j'imagine que vous avez eu des rencontres, notamment avec les corps policiers, pour voir un peu s'ils estimaient que ça change sur le terrain, justement, ces perceptions-là, ces biais-là, même parfois inconscients.
Bien, à nouveau, fréquence, notre champ d'action se concentre principalement sur les jeunes, sur les activités, sur le mentorat, les stages. On n'a pas rejoint nécessairement les corps policiers. On les a invités à se joindre à l'événement, à l'initiative, déclinée en 2024. On verra pour cette année, c'est le 14 juin. Alors, l'invitation est là.
Oui.
Mais bien sûr, on sent l'intérêt. On a l'appui des instances provinciales, fédérales. Donc, on sait qu'on a la société qui veut justement célébrer. Puis célébrer, c'est également outiller. Donc, oui, les ponts se font avec les entreprises. On a un partenaire tel WSP qui est à la deuxième année renouvelé son partenariat parce que, justement, une firme d'ingénierie est reconnue avec des expertises à travers le monde, mais également à travers nos régions au Québec. On dit oui, dès la première année, nous embarquons parce qu'on a des talents nous-mêmes au sein de notre organisation et on le voit et on veut les développer pour qu'ils soient confortables, à l'aise et qu'ils évoluent professionnellement un jour au sein de notre entreprise, partout au Québec. Donc, c'est magnifique de voir comment le positivisme de fréquence, ce que l'on amène, c'est sans faire abstraction de qu'est-ce qu'on vient de discuter des enjeux de la société, mais c'est d'outiller ces jeunes-là pour dire justement qu'ils ont une place pour eux, peu importe où ils veulent aller.
Vous avez nommé la date du 14 juin. Donc, il y a cet événement-là qui remet 10 prix là, dans 10 catégories différentes qui sont assorties d'une remise de bourse. Oui. Donc, parlez-nous un peu de l'événement, comment ça s'est né.
Bien, tout à fait. Bien, l'événement, à nouveau, bien, on parlait un peu tout à l'heure parce que j'aime tellement la thématique de l'émission. Premièrement, moi, je suis mère de 4 enfants.
Je lui ai dit hors d'onde, je peux pas croire qu'elle est mère de 4 enfants. Oui. Une belle femme tellement vivifiante.
Écoutez,
faudrait que je vous demande vos secrets.
Mais c'est les enfants, ils nous tiennent tellement occupés, ils donnent de l'énergie. Puis c'est cette fierté-là qui nous permet, nous, en tant que parents, de dire « wow, ce qu'on met au monde, ce qu'on crée, on veut contribuer à la société. » Et on, dans nos parcours, puis même en participant dans les activités de nos enfants, on a vu que c'était pas nécessairement toutes les mêmes familles qui avaient le cercle nécessaire pour amener l'enfant au niveau ou dans l'activité qu'ils veulent, que ce soit les responsabilités parentales, les chiffres pour le travail. Donc, je voyais que de plus en plus, si t'as pas un écosystème autour de toi, peu importe la communauté à laquelle tu appartiens, c'est difficile d'avancer et de créer cette fierté, ce sentiment que tout est possible pour un jeune.
Particulièrement dans le sport, entre autres, où les équipements sont très dispendieux, les frais de participation et autres. Donc, c'est sûr que les bourses peuvent aider.
Exactement. Et c'est là que, moi, j'en avais trois au hockey. Une dans le sport. Là, maintenant, c'est deux basketball, deux au hockey. Je voyais tout ça et à nouveau, il y a eu malheureusement un drame avec le meilleur ami de mon fils, où on a eu avec le Canadien, des organismes de Hockey Québec et tout, à lever des fonds pour amener ce jeune homme-là à la fin d'un parcours universitaire et de secondaire à universitaire, à lever des fonds et à lui de réaliser son rêve d'être même recruté dans une université américaine et de jouer pour l'Armada, ainsi de suite. Et on a vu qu'une communauté peut soutenir un jeune financièrement, psychologiquement et avec aussi l'amour et de créer ce sentiment de tout est possible. Une fois qu'on a fait ça, bien, le temps, les jours ont passé et c'est là que Fréquence est née. On le fait pour un, on peut le faire pour plusieurs. Et c'est non seulement dans le sport, c'est là aussi qu'il est important de mettre 10 catégories pour Fréquence. Le sport, la bienveillance. Bienveillance, c'est toute action contre le racisme, aider son prochain, ainsi de suite. Choses qui sont enseignées dans nos écoles au Québec. Le bénévolat, la culture, les arts, l'entrepreneuriat. Donc, et aussi les ondes régionales, pour revenir à ce dont on parlait. Puis la persévérance scolaire, qui est au cœur de tout l'épanouissement des jeunes.
Oui, parce que lorsqu'on demeure à l'école, bien, on réussit à se créer des conditions qui permettent ensuite de s'épanouir. Magali, on fait une courte pause et on revient tout de suite après pour élaborer davantage sur les activités de Fréquence et parler de votre parcours.
Oui, puis on vous parle du gala, merci.
Oui, bien sûr. En studio avec Magali Boutin. Elle est la fondatrice et directrice générale de l'organisme Fréquence qui veut faire rayonner les talents et la persévérance des jeunes de 12 à 21 ans issus des communautés noires du Québec. Donc, on a parlé avant la pause de cet événement-là, Gala, qui remet des prix et des bourses dans 10 catégories. Vous les avez appelées des ondes.
Oui, pourquoi? Parce qu'à nouveau, des catégories, des fois, ça semble circonscrit. Oui. Tandis que des ondes, ça rayonne, ça prend sa place dans une société.
Beau lien avec la mission, rayonner
alors,
les ondes,
voilà, c'est ça. Donc, on voyait ce cercle, cet écho-là. Puis le slogan, c'est l'écho des talents d'ici. Donc, justement, c'est pour encourager les jeunes et les partenaires à comprendre qu'on veut que ça voyage, cette initiative-là, et le talent qu'on va découvrir à Fréquence.
Ah ben c'est très bien lié, hein? L'idée de fréquence aussi, c'est fréquence, des ondes.
Oui, des vagues.
Oui, il y a quelque chose de très dans le mouvement, dans tout ça. Et je voyais que, parlant de mouvement, vous avez réussi à convaincre de nombreux membres pour le jury là, qui étaient en charge. On parle d'une soixantaine de membres.
Exactement, au grand total, 63. Et c'est fabuleux de voir année après année. Puis là, même, on vient de terminer la première sélection. Les mises en candidature se sont clos le 3 mai dernier. La délibération a eu lieu le week-end dernier. Et des témoignages et de voir des membres du jury émus par la suite, délibération, bien sûr, auxquelles je n'ai pas assisté, mais j'ai eu les
et
échos. C'est
des
personnalités issues des communautés noires qui œuvrent dans toutes les sphères de la société et qui sont... on a Zach Zoya qui est à Los Angeles, mais qui a été élevé en Abitibi. Anna Mulunda du milieu théâtral et comédienne. On a des gens du milieu de l'entrepreneuriat, des sciences, de la radio.
Déborah Cherenfant, Stéphanie Jecroix, Maker Guerrier.
Exactement, Shelby Jean-Baptiste qui a remporté justement l'artiste de l'année ou la personnalité publique au Gala Dynastie. C'est fabuleux, on a Shamar Ossidar de Royalty Natural, qui est une marque qui ne fait que grandir. Donc, on a eu l'année passée Vicky Joseph. Donc, c'est bien de voir dans tous les milieux, il y a même Sabrina Boutin, ma jumelle de MedTech, vice-présidente dans une compagnie d'innovation médicale. Alors, c'est fabuleux de voir comment nos membres du jury croit en cette opportunité et de rejoindre les jeunes pour leur dire que tout est possible et même devenir mentor si besoin il y a et si demande il y a.
Donc, il y a un certain jumelage qui peut se faire avec les membres du jury?
Oui, exactement. Jumelage tant avec les membres du jury ou bien avec les entreprises qui sont partenaires de fréquence parce que souvent, les entreprises eux-mêmes ont des programmes de stage et mentorat avec des jeunes de niveau universitaire ou justement dans le milieu de la santé. L'année dernière, une notre lauréate des ondes innovatrices au milieu de la santé a fait un stage d'un jour, chose qui est très accessible pour un jeune du niveau secondaire.
Et quelle forme prend ce mentorat?
Alors, le forme de mentorat, c'est 4 sessions par année, en volet virtuel, bien sûr, où un responsable de fréquence assiste pour l'échange et le mentor pose des questions aux jeunes. Le jeune a aussi des questions à préparer en amont. Et il y a un échange, tant sur le parcours, les recommandations ou l'écoute du jeune. Puis on le sait très bien, surtout à l'adolescence, des fois les jeunes préfèrent se confier à d'autres personnes qui connaissent très bien leur milieu ou leur passion qu'à leurs parents. Je l'ai vécu.
Oui, bien, allons-y dans votre parcours. Je ne sais pas si vous parlez de vous en tant que parent ou en tant qu'enfant.
En tant que parent, non. Rapidement, c'est drôle, dès ma petite enfance, ma mère disait toujours... T'étais déjà une petite maman ambulante, alors...
Oh, c'est joli!
Oui.
Donc, vous le disiez, vous l'avez évoqué un peu plus tôt, vous avez grandi au lac Saint-Jean.
Oui, Alma, précisément, oui. Avec ma sœur jumelle. Donc, ma sœur et moi, avons été adoptées à l'âge de 6 mois. Port-au-Prince, en Haïti, via adoption internationale. À l'époque, c'était souvent des enfants d'Haïti et adoptés par une famille extraordinaire qui avait déjà 3 enfants. Donc, 3 frères et les 2 jumelles Boutin se sont joints à l'aventure. Ça a été phénoménal. Nos parents, très impliqués dans la communauté. Fréquence vient aussi de ça, de voir que, puis le fait d'être en région, toute cette force-là, cette régionalité-là, mais le tout est possible, existe exactement aussi en région, peu importe les origines.
Est-ce que c'était le cas toutefois à l'époque?
Oui, à l'époque, je vois mes parents comment ils étaient impliqués. Mon père a été un des premiers fondateurs de Kino Cœur, du mouvement Kino Cœur, en termes de l'implanter dans la région. Ma mère, le Théâtre populaire d'Alma. Donc, de partir des initiatives, des troupes pour des choses qu'on voyait souvent plus dans les grands centres. Donc, oui, c'est au cœur de cette vouloir faire de région. Puis je ne ferai pas l'énumération de tous les talents du Lac-Saint-Jean qui sont maintenant à Montréal. Mais oui, ça fait longtemps que ça demeure et c'est une essence qui nous a été inculquée et qui fait que maintenant, tant dans mon parcours professionnel ou en termes d'engagement envers la société, c'est présent. Puis je ne pourrais pas faire abstraction d'avoir grandi en région pour avoir cette volonté de laisser ma marque puis de savoir que j'ai ma place, peu importe où je suis dans le monde.
Bien, surtout avec cette région-là, ma mère est originaire de Jonquière, je comprends très, très bien les échos et la fierté particulière à cette région-là. Et c'est drôle parce que je voyais un reel sur Facebook hier de « Tu sais que tu viens du lac Saint-Jean-Caen » et ça avait été très partagé et très commenté.
Oui, tout à fait. Donc, voilà. Donc, le parcours est ça. Par la suite, bien sûr, le sport, les études nous amènent en dehors des grands centres. C'est ce qu'on voit, mais de plus en plus, on voit des jeunes revenir en région. Mais toute ma famille, on s'est éparpillés dans les grands centres et même jusqu'aux États-Unis. Et par la suite, bien, les enfants dans le paysage, 1, 2, puis par la suite, coup double, les jumeaux, jumeaux jumelles, Yuri et Maïté, qui sont nés en 2008.
Là, vous parlez des enfants...
Des miens.
Vous êtes une grand-mère.
Mes enfants. Je parle de mes enfants, moi.
Oui.
Donc, une fois que j'ai quitté la région, par la suite,
Là, j'étais vraiment...
Non, je ne suis pas encore prête à ça, mais j'en ai un de 21 ans, mais je pense qu'il est mieux de finir ses études avant.
En ayant un également du même âge, je partage tout à fait votre avis de maman. Dans votre parcours aussi, il y a eu vous-même le sport. Là. Vous avez été très impliquée en natation, je crois.
Exactement.
Et c'est sans revenir nécessairement au terme du racisme, c'est quelque chose que vous avez vécu dans la pratique de votre sport?
Tout à fait, mais je vous dirais Très peu. Mm. Mes parents ont été brillants. Je pense qu'ils ont dit que c'était mieux de tout gagner puis d'être la meilleure. Comme ça, il va y avoir un respect qui va s'instaurer.
Oui, mais c'est une pression, ça, non?
Oui, c'est une pression, mais je vous dirais, à nouveau, être en région, l'esprit, l'écosystème. On regardait justement hier encore, on a des records régionaux en natation qui datent de 35 ans et qui ne sont pas encore battus. Donc, il y avait quelque chose de spécial dans l'eau, comme Astérix et Obélix, qui fait que, justement, on était une cuvée qui avait un talent. Et ce qui a fait que moi, dès l'âge de 12 ans, j'avais mes standards nationaux. Mm. Alors, j'ai été appelée à nager dans les grands centres et faire des compétitions nationales et internationales très jeune. Ce qui a fait qu'à la fin de mon secondaire 4, j'ai été appelée à nager à l'Université Laval pour l'Université Laval. Mm. Donc, j'ai commencé mon parcours-là déjà jusqu'à ce que je débute mes études universitaires avec l'Université Laval, capitaine de l'équipe du Québec de natation à 4 reprises. Et wow. Ça, c'est les jeunes qui choisissent. C'est à nouveau les standards, mm-hmm. les temps. Athlète identifié à l'époque par le ministère des Sports, ça crée comme une protection aussi. Mm-hmm. Mais oui, mm-hmm. dans les grandes compétitions, il y a eu des injustices, il y a eu des commentaires racistes. Il y a une coquille, mais je dirais toujours que la médaille au cou permet de fermer le clapet à des jeunes qui ne comprennent pas c'est quoi blesser un athlète qui se concentre ouais. juste pour faire le sport auquel tout le monde a droit d'accéder. Mais encore à nouveau, on l'a vu aux Jeux de Paris, c'était la première fois qu'un Liendo, mm-hmm. un nageur noir canadien, remportait une médaille pour le pays. Ouais. Donc, on est en 2025 et ça fait plus de 20 ans que j'ai arrêté de nager. Donc, et encore, il se démarque dans la piscine.
Magali, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à Fréquence?
Une longue vie, une longue vie, et que Fréquence grandisse doucement pour que la mission soit bien comprise.
Ah, quelle belle nuance! Vous savez que c'est la première fois qu'on nous dit ça.
Merci.
J'aime bien. Oui.
Mais parce qu'il y a des éclats, il y a des événements, il y a des « wow », mais on sait que c'est difficile porter et soutenir des OBNL. Donc, cette continuité et de ne pas être tenté de faire les choses trop grosses ou trop rapidement, mais que ça soit bien compris pour que le soutien demeure.
Et on invite, excusez-moi, nos auditeurs, donc, à ce gala qui a lieu à quel endroit?
Au musée McCourt-Stewart cette année. Donc, on a un partenaire exceptionnel. L'événement va se tenir dans le musée et également dans la ruelle, juste à côté, la ruelle qui appartient au musée sur, entre le président Kennedy et Sherbrooke. On a des animateurs qui vont être révélés très bientôt. Et déjà, avec plus de 120 candidatures, 30 finalistes dans 10 catégories. C'est fabuleux. Puis on a des belles personnalités publiques et artistiques qui vont venir faire des prestations.
Donc, 14 juin, on invite nos auditeurs à visiter votre site Internet de Fréquence. Merci beaucoup, Magali Boutin, d'avoir été avec nous.
Un plaisir sur fréquencequebec.com.
Merci.
Vous écoutez Les héros anonymes avec Chantal Doré.
De retour en studio pour ce deuxième bloc des héros anonymes, et j'ai rebaptisé les héroïnes anonymes aujourd'hui parce que ce sont deux femmes, et elle est débarquée dans le studio vêtue de rose avec des paillettes et un sourire, ma foi, craquant, et en plus des biscuits bonheur. Alors que voulez-vous, c'est l'effervescence en studio en ce moment. Alors on accueille Rosanna Brouzonnet. Elle a fondé un organisme qui s'appelle Montréal la plus heureuse. Et vraiment, si on avait voulu désigner une fondatrice idéale, ben ce serait vous, parce que faut que vous nous expliquiez d'où vous vient cette tendance au bonheur. Bonjour, Rosanna.
Bonjour, merci de m'avoir invitée. Mais alors, en effet, ça vient de loin. Je pense que ma grand-mère était une optimiste de nature.
Ah, les grand-mères, elles jouent un rôle. Ah. Ma grand-mère aussi a été très importante. Oui, tout à fait. Donc, c'était une optimiste. Comment s'appelait-elle?
Rosetta, comme la rose. Oui. La petite rose. Et chaque fois que je vais de bleu de l'âme dans l'adolescence, elle me disait toujours que tout allait pour le mieux et que j'allais aller toujours plus haut. Alors, elle c'était ça. Donc, quand j'étais down, elle me disait ça. Mais je pense que ça vient aussi de mon travail, parce que quand j'étais en Italie, j'étais professeure d'italien. Mm. Et donc, j'avais beaucoup d'heures avec mes élèves. Et j'étais persuadée que la mission d'un professeur est aussi d'aider ses élèves à devenir plus heureux,
ah,
à développer c'est ça, une attitude. Parce que, quand, en effet, quand on a beaucoup d'heures à vivre avec des jeunes, on a aussi la possibilité de les conditionner en positif, de les aider à développer de nouvelles habitudes. Alors, j'avais acheté un cahier, je l'avais appelé le cahier des événements chanceux.
Oh, mais que c'est beau! Le cahier des événements chanceux! Et qu'est-ce que... C'est, tout le monde pouvait écrire? Ou...
Oui, tout le monde. Puis c'était un espace vraiment sans notes, sans jugement, sans faute. Ils étaient vraiment libres. Et puis le vendredi, on partageait. Et le partage avait vraiment un effet magique, parce que quand on partage une joie, puis on la revit, ça se multiplie.
C'est contagieux. Hein?
C'est contagieux. Puis c'était toujours des choses accessible, parce que normalement, ce qui nous rend heureux, ce n'est pas de gagner au loto. Là, c'est de l'illusion. Ça, la joie, c'est vraiment les rencontres, les surprises. Oui.
Les biscuits,
exact. Et donc, c'est ça. Le vendredi, on partageait, puis je voyais les effets positifs sur les élèves qui étaient plus anxieux, etc. Et donc, quand je suis venue ici à Montréal, j'ai proposé l'écriture optimiste dans des résidences pour personnes âgées, des centres culturels.
L'écriture optimiste.
Optimiste.
Est-ce que c'est un terme que vous avez inventé?
Oui.
Oui.
Oui, parce que c'est pas écriture positive tout court. C'est optimiste dans le sens où ça vise à prendre le mieux de ce que nous vivons, et d'optimiser notre quotidien, notre histoire, et voir ce que nous pouvons retenir pour grandir, pour faire du bien aussi aux autres, pour nous faire du bien, ce que nous pouvons partager. Et donc, c'est ça, pendant un atelier d'écriture optimiste, c'est ça qui se passe. Il y a un thème, un texte, puis après, je donne une suggestion d'écriture, on écrit librement, et à la fin, on partage. Donc, il ne s'agit pas d'apprendre à écrire, d'apprendre des techniques, mais juste d'utiliser l'écriture pour mieux vivre.
Oui, comme véhicule, comme vecteur.
Exact.
Quoi de souvenirs heureux qui émergent?
Des souvenirs heureux, puis aussi de petites expériences qu'on vit au quotidien et qui peuvent nous faire sentir bien et faire en sorte qu'on donne un sens à notre vie. Même faire un sourire à un inconnu peut donner le sens à une vie.
Ouais. Bien, on va parler évidemment là, du Festival du bonheur, de l'organisme Montréal la plus heureuse. Mais juste pour compléter un petit peu ce bout-là, vous me faites réfléchir que la notion de bonheur telle qu'on l'enseigne ou qu'on la lit ou qu'on la voit est souvent reliée à l'atteinte de grands rêves ou de grands projets, alors que ce que je comprends dans votre vision, c'est de cultiver les petits moments quotidiens et de réussir à les transformer en petites joies.
Exact, de les reconnaître. Parce que des fois, le problème, c'est pas qu'on vit pas la joie, mais c'est qu'on la reconnaît pas. Donc, en pensant qu'on doit atteindre un objectif, dans mon expérience, quand je suis arrivée, avant d'obtenir la résidence permanente, ou même mon premier permis de travail, et si j'avais raté toutes les joies que je vivais juste parce que je devais absolument arriver à mon objectif, j'aurais raté tellement d'occasions de bonheur à Montréal. Donc,
Et là, vous vous êtes dit, moi, j'ai tellement de bonheur, je dois partager ça avec les Montréalais. Comment s'est né tout ça, Rosanna?
Alors, l'idée de Montréal la plus heureuse, en effet, est née parce que j'étais dans un espace de coworking.
Oui.
Et je me souviens qu'une personne qui travaillait là-bas avec son entreprise de marketing, c'était pas une OBNL, elle me dit « Ah, mon Dieu, on pourrait faire quelque chose un jour, faire que les Montréalais sont le plus heureux, etc. » Puis elle m'a dit ça. Puis après, on n'en a plus parlé.
Mais... Ça avait semé quelque chose.
Ça avait semé quelque chose. Parce que ensuite, j'avais sorti un petit bouquin, Le défi optimiste, et il y avait un employé de son entreprise qui m'avait aidé avec le graphisme. Mm-hmm. Puis il vient me voir et me dit, mais tu sais que demain, il y a le deuxième anniversaire de Je fais Montréal, qui était un mouvement citoyen qui aidait vraiment beaucoup de projets. Alors il me dit, est-ce qu'on y va? Et j'ai dit oui, mais alors il faut créer un projet. Et alors, Tine, j'ai repensé à ça. Je dis, mais écoute, on crée le projet Montréal, la ville la plus heureuse au monde. Et puis, on y est allé. On a écrit le projet pendant la soirée, même en bout de nuit.
Wow!
Et puis, le jour...
Il fallait saisir l'opportunité.
Il fallait, parce que moi, je pensais que c'était trop tard. C'était novembre 2016. Je pensais que c'était trop tard pour proposer quelque chose pour 2017. Mais quand il m'a dit ça, j'ai dit, mais non, c'est pas trop tard. On y va. Puis, en effet, notre projet, en janvier 2017, a intégré Je fais Montréal. C'était un projet d'un documentaire où 150 personnes, parce que c'était le 150e de Montréal, du Canada,
oui.
150 personnes répondaient à la question « Pourquoi es-tu heureuse à Montréal ?» Et donc, on interviewait vraiment les personnes au fur et à mesure avec un autre ami, Franck Bio, qui est un photographe. On allait vraiment dans la ville à toutes les occasions. Ça s'est fait vraiment comme un collier de perles. On rencontrait quelqu'un, on nous demandait « Est-ce que tu veux faire une capsule ?» La personne faisait une capsule de une minute, c'était toujours bonne la première, avec un téléphone, vraiment tout. Et puis, à la fin, on a fait une campagne de socio-financement pour réaliser le documentaire. Et il y a eu beaucoup de personnes qui nous ont aidés bénévolement. Donc, on les a appelés les ambassadeurs du bonheur. Et à la fin, on a fait le cri de joie au Mont-Royal. On est les 200 à crier Montréal est la ville la plus heureuse au monde.
Ah oui, oui, oui. Ça me dit quoi, là?
Et puis, c'est ça, c'était la dernière capsule du documentaire. Et à la fin, on a fondé l'organisme parce qu'on s'est dit, après tout cela, c'est bien de continuer.
Oui. Quand on voit que ça fait écho,
puis
que ça nous fait du bien,
exact.
Et qu'on est capable de créer des choses en une nuit, continuons. Donc, le document, est-ce qu'il est, on peut le visionner quelque part?
Oui, si on va sur notre page MTL, la plus heureuse, sur notre site mtl.org, on peut le voir même sur la page d'accueil, il y a le lien vers le documentaire, le lien YouTube.
Alors, le documentaire a fait des petits, dont le Festival du Bonheur, le Festival Novembre en couleur, oui, parce qu'on sait que novembre est un mois où on a bien besoin dans cette grisaille, et des manifestations de joie.
Oui.
Donc, qu'est-ce qu'on fait dans un Festival du Bonheur?
Alors, le Festival du Bonheur, effectivement, c'est notre première création en 2019. Et ça consiste en plusieurs volets dans différents arrondissements normalement. Donc, on a un volet spectacle. Cette année, c'était un spectacle d'humour avec plusieurs performances d'artistes. Puis, on a un volet art visuel. Cette année, on a fait une exposition avec des jeunes, avec Fusion Jeunesse. Et puis, on a un volet cinéma, donc avec des courts-métrages réalisés cette année par des jeunes encore, mais ça dépend des années aussi, ça a été des personnes de
mais toujours
âge. Sur un thème
positif.
Cette année, c'était les rencontres heureuses. Ouais. Et donc, tout était autour des rencontres heureuses. Et puis, on a eu aussi le volet jeu, un volet intergénérationnel. Et disons qu'on vise beaucoup la diversité. Donc, on valorise plusieurs communautés. Donc, à chaque année, on a des artistes de toute origine.
Quand vous parlez d'activités intergénérationnelles, j'entends votre grand-mère Rosetta qui est derrière tout ça un peu.
C'est drôle, je n'avais pas pensé comme ça, mais c'est vrai. C'est vrai qu'on aime beaucoup faire rencontrer les générations parce qu'on trouve qu'elles ont tellement à partager, à échanger. Cette année, par exemple, le volet jeu, a été créé par des aînés avec la collaboration de quelques jeunes. Et ça a été vraiment une tournée du bonheur avec plusieurs moments différents. Et on voit très bien que les échanges se font facilement, très naturellement. Ouais. Et maintenant, on est en train de faire d'ailleurs un projet avec les personnes aînées et qui s'appelle Le Bonheur Haut en Couleur. Dans 8 arrondissements, on fait des ateliers d'expression artistique finalisés à la création d'un zine, donc un livre d'artiste.
D'accord.
Qui sera présenté lors du Festival du Bonheur 2026.
Oh là. Donc, on vient tout juste de vivre en mars le Festival du Bonheur, donc une réédition l'année prochaine. Et la version spécifique au mois de novembre, qu'est-ce qui se passe?
Ah, novembre, ça va être la 4e édition. Parce que Novembre en couleur, en effet, c'est une série de manifestations de joie dans différents arrondissements. Donc, c'est quoi une manifestation de joie? Il y a un atelier de création de pancartes, comme si c'était une vraie manifestation, mais des pancartes pour exprimer la joie. Puis, on a une déambulation joyeuse en musique avec une fanfare ou des musiciens quand même. Et à la fin, on a un atelier interactif ou une performance. Et on est à l'extérieur, mais on est aussi dans des bibliothèques. Donc, c'est un peu révolutionnaire quand même dans une bibliothèque d'avoir de la musique, d'avoir de la déambulation.
Ben, oui, parce que souvent, on entend bibliothécaire et le fameux « tch, tch ».
Exact, exact. Mais là, par exemple, ben nous...
Comment vous les avez convaincus?
ça a été facile.
Oui.
C'est incroyable. Dans le sens que quand il y a la prédisposition, c'est facile. On n'a pas besoin de mettre beaucoup d'énergie. La bibliothèque Mordecai Richler, c'est une bibliothèque qui accueille, par exemple, les ateliers d'écriture optimiste depuis longtemps.
Ah oui, connaissait déjà ce que... tout l'écho positif que vous pouvez apporter.
Puis aussi, le Centre Mémoire Montréalaise. Mm-hmm. Aussi, là, l'année passée, on a fait la première manifestation de joie là-bas. Puis on est allé sur l'esplanade tranquille déambuler et on est revenu au même. La bibliothèque de Saint-Laurent aussi a adhéré. Donc, la bibliothèque de Saint-Laurent a été partenaire aussi pour cette 6e édition du Festival du Bonheur. Donc, il y a beaucoup de réceptivité, puis aussi de voir les personnes... ce que ça leur apporte, même les personnes qui ne s'y attendaient pas.
C'est un peu la question que j'avais, parce que spontanément, dès qu'on reconnaît dans une manifestation la forme des pancartes, on se dit, bon, quel est le sujet? Et là, j'imagine qu'il y a une surprise. Vous devez constater dans les yeux des gens qui vous voient déambuler une surprise de se dire, mais qu'est-ce que c'est?
Oui,
quelle est la cause?
C'est vrai. Les gens, cette année, par exemple, il y a des gens qui se sont unis à nous parce que c'était comme, ils ont dit, waouh, je veux participer. Qu'est-ce que c'est? C'est juste de la joie? OK, je viens. Et puis après, certains sont même devenus bénévoles, sont même devenus ambassadeurs du bonheur. On a fait aussi une expression de joie du temps des fêtes avec la même formule et c'était la même chose. Ce qu'on a vu, c'était l'impact sur les personnes. On essaye toujours de toucher des moments de transition ou des moments qui peuvent être difficiles
à vivre. Oui, parce qu'on le sait, que ce soit pour un immigrant ou pour une personne qui est en deuil d'un parent, d'un conjoint. Ce sont des moments qui font surgir des souvenirs et souvent, malheureusement, c'est des souvenirs négatifs qui émergent d'abord.
Oui, puis aussi, pendant cette période, comme le temps des fêtes ou le mois de novembre ou le mois de mars où on est un peu... fatigué après l'hiver, etc. C'est toujours des moments un peu cernières. Cette année, on va faire même une manifestation de joie de la rentrée. Le 6 septembre, c'est financé par l'arrondissement du plateau Mont-Royal.
De la rentrée.
Oui, oui, de la rentrée, c'est ça, le 6, on s'est dit...
Je ne sais pas si on va avoir le temps d'y aller avec tous les achats scolaires et l'étiquetage, mais bon. Rosanna, je vous propose une courte pause. Oui. On revient tout de suite après parler de Montréal, la plus heureuse, votre œuvre. Bloc des héros anonymes. Cette semaine, nous poursuivons notre discussion avec Rosanna Bruzzone de Montréal, la plus heureuse. Alors, Rosanna, comment naît un organisme? En fait, plus, comment réussir à survivre un tel organisme? J'imagine que ça implique des partenaires financiers.
Oui, oui. Alors, en effet, nous n'avons pas encore une subvention à la mission. Donc, mm-hmm. ça, c'est ouais, le gros défi.
Malheureusement, beaucoup d'organismes.
Oui. Mais nous avons des partenaires financiers pour les projets. Par exemple, on a Patrimoine Canada pour le Festival du Bonheur et pour Novembre en couleur. On a la ville de Montréal pour Novembre en couleur. Et puis, pour l'expression de joie du temps des fêtes, l'année passée aussi, on a eu l'arrondissement de Ville-Marie. Cette année, voilà, on a l'arrondissement du plateau pour la manifestation de joie de la rentrée. Puis, pour ce qui est du projet avec les aînés, on a Québec Amis des aînés et on a aussi Nouveaux Horizons pour les aînés. Mais c'est vrai que pour essayer de survivre à l'année longue, nous avons la possibilité de devenir membre, naturellement. Ça, c'est une petite cotisation de 5 ou 20 dollars. Mm-hmm. Et maintenant, on a une vente de biscuits bonheur.
Oui, oui, on voit la boîte. On en a reçu en studio. On a très hâte de déguster.
Oui, alors notre partenaire à l'essentiel, c'est notre traiteur qui les a offerts cette année pendant notre Festival du Bonheur. Et nous devons dire qu'ils ont eu beaucoup de succès parce que c'est un partenaire magnifique qui fait vraiment des pâtisseries avec des ingrédients santé. Là, c'est de l'avoine, du chocolat ou la variante l'abricot. Puis après, on a du sirop d'érable. Donc, c'est vraiment très, très bon, très santé, etc. Alors, nous encourageons vraiment à aller sur notre site, on a le lien pour les acheter, ou donc notre site c'est mtlplusheureuse.org, ou alors la pâtisserie s'appelle À l'essentiel. Et donc là aussi vous pouvez aller pour aller directement. Et disons que nous encourageons non seulement les organismes communautaires qui des fois font des activités, ont envie d'offrir quelque chose, aussi les particuliers. Peut-être que pour la fête des mères, si vous allez les voir, il y a encore la possibilité de dernière minute d'acheter quelque chose. Ou alors les entreprises, si vous voulez faire vraiment un cadeau original et santé, une gâterie très, très délicieuse à vos employés. Voilà.
Le message est lancé à nos auditeurs. Donc, on parlait un peu tout à l'heure du projet avec les personnes aînées. Certaines sont devenues des ambassadeurs, des ambassadrices du bonheur. Qu'est-ce qui vous a surpris dans ces ateliers-là?
Alors, c'est tellement beau de les voir créer et prendre des décisions. Parce que ce qui est intéressant dans ce projet, c'est qu'on fait aussi des réunions de coordination avec les aînés. Donc, ils ne sont pas obligés de venir tous, mais il y a quand même un noyau pour chaque groupe qui vient prendre une décision, être porte-parole des autres aussi, mm. dans le choix des thématiques, dans le choix des médiums artistiques, parce qu'il y a toutes sortes, la sérigraphie, la peinture, le collage, toutes sortes, et donc toutes sortes d'artistes aussi. Et c'est très intéressant de voir ça. Non seulement le bien-être dans la création, mais la participation à la prise de décision qui, selon nous, est très importante.
Mm. Ouais. Quand on parle de prise de décision, vous voulez dire dans...
Oui, dans la création, parce que c'est quelque chose qu'on construit ensemble. Donc, c'est pas, on n'arrive pas en disant, alors on va faire ces ateliers avec ces thématiques et avec ces médiums. Mais on va dire, on va créer ensemble. Quel est votre rêve? Quel est le médium que vous aimeriez? Il n'y a pas de limite. Si à la fin, on ne pourra pas, on trouvera une solution, un compromis, mais essayez vraiment de donner vie à tous vos rêves. Et donc, ça, je trouve, c'est beau. C'est beau parce que ce n'est pas juste des bénéficiaires, mais c'est des co-créateurs.
Et quel type de rêve s'exprime, parce que je sais que vous êtes impliquée auprès des jeunes, quel type de rêve s'observe chez les jeunes versus les personnes âgées? Parce que, comme on le mentionnait tout à l'heure, on a comme l'impression que être heureux, c'est d'avoir réalisé des grands rêves dans la vie. Alors que lorsqu'on est jeune, on a du temps pour tout ça. Plus le temps avance, plus il y a peut-être un sentiment que c'est maintenant qu'on doit faire les choses, mais peut-être aussi de revisiter nos rêves en quelque chose de plus... De plus simple et, comme vous le disiez, de reconnaître que ce sont des joies.
Oui. Bien, c'est intéressant cette question parce qu'en effet, quand on a fait les rencontres heureuses autour d'une boîte cette année dans le cadre du Festival du Bonheur...
Autour d'une boîte. Donc là, on parle vraiment de... Comme la boîte des biscuits devant moi.
Exact. Oui. Parce que Fusion Jeunesse a vraiment un programme d'art visuel avec les jeunes. Mm-hmm. Donc, on a fait ça avec eux. Ils ont fait des ateliers. Et les jeunes dans les écoles secondaires créent des petites boîtes et dessinaient ou écrivaient ce qui les faisait sentir bien, ce qui était leur bonheur. Et je dois dire qu'il y a vraiment un tout petit pourcentage qui a mis l'argent.
Ouais.
Il y a quelqu'un qui a mis ça. Mais sinon, il y avait beaucoup de sport, beaucoup de être ensemble, l'été ou la crème glacée. Mais ça ne veut pas dire... C'est très important de voir des rêves, mais aussi de reconnaître que pendant qu'on les poursuit, on peut être bien, qu'on ne doit pas juste courir vers le rêve et oublier tout le reste. Ça me fait plaisir de le voir auprès des jeunes aussi.
Et on parlait tout à l'heure de manifestation, de déambulation, qu'à la limite, la joie peut être révolutionnaire. Et je me disais, ça détonne, parce que ces temps-ci, dans l'épisode, en fait, dans l'univers médiatique, c'est plutôt tendu. Les nouvelles qu'on entend sont plutôt... on parle très, très peu de la joie. Et à la limite, la joie pourrait être perçue comme... Comment peut-on être joyeux et heureux quand ça va si mal? Comme à la limite, même comme un... Même certaines personnes vont dire soit qu'on manque de responsabilité d'être joyeuse, de dire, ben voyons, ça va si mal et là, vous êtes là à nous étaler votre bonheur en plein visage. Comment on juxtapose ces deux tendances?
Moi, je crois que notre pouvoir... Alors, on n'a pas de pouvoir direct sur les grandes décisions qui sont prises.
Les cataclysmes.
Etc. Ouais. Exact. Mais notre pouvoir, le pouvoir que chacun de nous a, et même les personnes qui n'ont pas un statut, qui sont de conditions sociales, qui ne sont pas vraiment dans le
précaire,
bien-être, précaire, etc. Et c'est vraiment dans le bonheur de proximité.
Le bonheur de proximité.
Oui, c'est
donc le bonheur accessible et autour de nous.
Accessible, exactement. Oui. Qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous pouvons faire du bien aux autres avec un bonjour, avec un sourire, avec donc. On se fait du bien, mais on fait du bien aux autres. Dans ce sens-là, ce n'est pas égoïste vis-à-vis de ce qui va mal, mais c'est au contraire une façon de nous permettre de nous faire du bien réciproquement. Donc, c'est ça le sens de la manifestation de joie. Non? C'est une expression pour faire du bien aux autres et pour faire en sorte qu'on se sente collectivement mieux. Et en se sentant collectivement mieux, on peut changer les choses.
Oui, il se développe un mouvement, puis ça diminue l'impuissance que parfois on ressent. Rosanna, merci pour cette belle effervescence, tout ce rose que je vois dans votre chandail, dans vos yeux et votre sourire. Donc, si on veut en savoir davantage, Montréal, la plus heureuse, voilà, on donne rendez-vous à nos auditeurs et d'acheter les fameux biscuits bonheur que je m'apprête à déguster. J'en profite pour dire merci à notre heureuse équipe et joyeuse équipe, Catherine Bourderon, Mathieu Tessier, Jean-Sébastien Laliberté, Chantal Doré au micro. Je vous invite à découvrir tous nos épisodes sur nos plateformes de balado diffusion et je vous dis à très bientôt.